France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Christian Ivaldi, je suis né le 2 septembre 1938, je suis pianiste, je suis enseignant et aussi mélomane et amateur d'art.
Sterne mit den Wolken Füßchen wandeln droben bang und zart, dass sie nicht die Erde wecken, die da schläft im Schoß der Nacht.
Christian Ivaldi, dans votre vie de pianiste, il y a un répertoire qui est extrêmement important, qui est celui d'accompagner la voix. Noël Lee lui détestait le terme d'accompagnateur, il militait pour qu'on dise que c'était un partenaire. Ce rôle-là de soutenir une voix, Christian Ivaldi, comment vous l'avez ressenti, comment vous le vivez encore ?
C'est très complexe parce que les chanteurs attendent d'un pianiste beaucoup plus que les instrumentistes, c'est évident, ils ont leur voix en eux. Il y a une question d'ego, il faut vraiment... J'ai pas trouvé tout de suite... J'ai trouvé ça très difficile, d'abord même techniquement, les premières fois où ça m'est arrivé. Je me souviens de premier concert important avec Rita Streich à la Grange Le Mellet en 64, et en plus j'avais une pétoche et je savais que Richter était dans la salle. Ça me mettait une pression, il était adorable, il est venu après d'ailleurs, mais j'avais pas encore l'aisance que j'ai eue après, et qu'il faut à la fois anticiper, prévoir, rassurer aussi pendant les répétitions, hein. C'était vraiment quelque chose de très complexe. Ça n'a jamais dépassé, je pense, un cinquième à peu près de mes activités, mais ça a été régulier pendant des années. Les deux derniers grands chanteurs avec qui j'ai travaillé, c'était Shirley Verrett et Teresa Zilisgara, et ça a été des souvenirs merveilleux, j'étais en Europe partout. Vous savez, je me rends très bien compte de ce que ça peut paraître un peu snob de lâcher des grands noms tout le temps comme ça. Et en fait, mon profil fait que je positionnais forcément par rapport à les partenaires. Enfin, je me disais, bon, si telle personne qui est un grand artiste, une grande artiste, continue à travailler avec moi, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose que je peux apporter, que c'était une façon de me situer. C'est assez paradoxal, mais...
Et cette relation-là de confiance, en effet, le chanteur, il a son instrument en lui, donc souvent on peut imaginer qu'il a une forme de manque de recul, et le pianiste, lui, a peut-être davantage une vision d'ensemble, et en effet, ce devoir de rassurer, c'est une psychologie complexe.
Hein. C'est très complexe, tout à fait, ça m'a demandé une démarche, un effort, c'est pas une chose que je faisais naturellement. Est-ce qu'on revient encore au statut d'enfant unique dans l'enfance, je ne sais pas. C'est un répertoire qui me manque. J'ai plus tellement l'occasion d'accompagner les chanteurs maintenant. Un des derniers, ça a été François Leroux, avec qui je continue à travailler à l'Académie Francis Poulenc à Tours, avec Jeff Cohen. C'est un répertoire qui me manque presque plus que le répertoire de musique de chambre, curieusement. C'est une telle merveille.
Et parce qu'il y a les mots aussi.
Alors, il y a les mots aussi, et vous parliez de la réaction de Noël, en effet. Moi, ça me gêne pas du tout si on me dit que j'accompagne un chanteur. Le chanteur a quand même un texte littéraire, hein. Ça crée déjà, même si les parties de piano sont évocatrices, sont passionnantes souvent et très belles, hein. Non, je reconnais que comme Noël, je suis très agacé quand je fais une séance de sonate avec violon ou avec alto, avec du Brahms, du Beethoven, Debussy, Ravel. Je crois profondément que pour le public, si le pianiste n'est pas seul en scène, il est forcément en second plan.
Liebe mir, einen Blick, der sagt,
Quand vous commencez, tout jeune, Christian Rivaldi, à accompagner Rita Streich, vous avez conscience de cette chance?
C'est un privilège continuel. Enfin, le premier privilège, faire ce qu'on aime, hein, déjà. Jamais deux journées semblables, un renouvellement continuel, par les mêmes partenaires, par le même lieu, par le même instrument, puisque pour nous, pianistes, on change tout le temps l'instrument. Et si j'imagine quelqu'un derrière un bureau tous les jours avec les mêmes collègues, c'est pour moi impensable. Enfin, c'est une vie tellement extraordinaire. Faire ce qu'on aime, bon, évidemment. Tout ça sont des privilèges. Et puis les privilèges d'avoir eu de tous les partenaires extraordinaires que j'ai eus.
Alors avec elle, vous chantez, j'allais dire, oui, parce que vous chantez avec votre piano à ses côtés, Mozart, Wolf, Schubert.
Oui, Wolf, en particulier Wolf, que je connaissais pas à l'époque. Oui, c'était exceptionnel.
Comment elle était?
Magnifique musicienne, très exigeante pour elle aussi. Un peu enfant gâté, un peu, c'est sûrement une des artistes les plus, entre guillemets, difficiles avec qui j'ai dû travailler, parce qu'elle était un peu capricieuse, mais c'était une très grande artiste. Enfin, ça m'a appris beaucoup de choses.
Et une autre femme avec qui, enfin, il y en a beaucoup, mais évidemment, il faut s'arrêter, avec qui vous avez beaucoup joué, c'est Régine Crespin.
Oui,
aussi.
Oui.
Alors, elle?
Régine, elle était aussi timide que moi, d'une certaine manière. Alors, c'était, mais enfin, on se retrouvait, ça se passait très bien, je crois. Je l'ai connue pour une télévision avec Bernard Gavetti en 64. Et puis, je l'ai retrouvée aux Champs-Élysées en 68 pour un récital. Et ça, c'est sa décennie absolument glorieuse. Elle était vraiment, elle chantait partout, les grands rôles. Et puis, 2 ans plus tard, en 70, on n'a pas travaillé pendant 2 ans ensemble, et j'ai retrouvé au Théâtre de la Ville. Alors ça, le Théâtre de la Ville, c'était formidable aussi. J'ai fait ça plusieurs fois. On avait 5 jours de suite le même programme. La première fois que je l'ai fait, c'était avec Krivine, et puis après avec beaucoup de chanteurs. Et Régine était pas très en forme vocalement, je me souviens, pour cette semaine au Théâtre de la Ville. Et longtemps après, je me suis aperçu que c'est la période où Karajan lui a fait chanter Bone Hills, qui, à mon avis, a été une erreur. Elle était une cycline magnifique. Et Brunhild, alors Karajan disait, je veux faire un ring, musique de chambre, c'était Janowitz qui chantait Ziglin. Mais Régine, qui avait un grave et un médium exceptionnel, n'avait jamais eu des aigus tellement faciles, en fait, et je crois que ça a été vraiment une erreur. C'est tellement difficile pour les chanteurs de savoir exactement ce qu'ils peuvent chanter, et ce qu'ils doivent arrêter de chanter, l'évolution de la voix. Je me souviens que ma copine Christiane Dapierre, un jour, on travaillait ensemble, elle me dit, bah, tu vois, Hugal, qui était à l'époque directeur de l'Opéra de Vienne, m'a demandé constance pendant 2 ans, elle chantait l'enlèvement au sérail partout dans le monde entier. Et je lui ai dit, Hugues, dans 2 ans, je pourrais plus chanter constance. Mais tous les chanteurs ont pas la sagesse d'anticiper là-dessus, c'est compliqué. Et puis, le s'arrêter, enfin, c'est vrai qu'il y a des chanteurs qui peut-être chantent un peu trop longtemps, mais c'est tellement extraordinaire pour eux, ces succès, les triomphes qu'ils ont, et puis le don de soi aussi, du chanteur en scène. Enfin.
Masculine, on peut parler de voix très différentes, comme celle par exemple de Boris Christophe ou du Queno. Rien à voir.
Tout à fait. Ouais, oui. Ils sont en effet aux antipodes, comme dit.
Ouais. Quel serait Christian Ibadi?
Ça aussi, ça a été épisodique. Hein. Christophe, c'était au Met de Versailles, je me souviens, en mai 68. Une seule fois, hein. Il y a des artistes comme ça, une seule fois, il y en a eu beaucoup. Barbara Hendricks, Maureen Forrester, ça a été une rencontre qui m'a bouleversé, vraiment, parce que cette femme était d'un naturel et d'un engagement aussi musical. Je l'ai jamais revue, ça a été un concert à la radio. Mais j'ai trouvé cette femme d'une évidence, d'un naturel exceptionnel. Ouais.
Et Ukueno, alors, puisqu'on n'en parle jamais de ce chanteur, et pourtant, quel artiste!
Oui, magnifique. J'ai fait des satis avec lui. Je me souviens d'un concert à Aix, oui, on avait fait La mort de Socrate de Satie. Et Georges Auric était là et est venu me voir après. Il m'a dit, vous savez, Vivaldi, Satie ne voulait pas qu'on dise les textes sur ses musiques, parce que je faisais aussi les sports et divertissements de Satie et Hugues disait les textes. Et Auric m'avait dit ça, oui.
On continue encore un petit peu, vous m'en voulez pas, mais quand même, Jeanne Rhode, c'est important.
Ça a été une amie proche, elle est morte malheureusement.
Duparc, par exemple.
On a enregistré les Duparc, en effet. Bon, Jeanne avait tout pour elle, elle était belle, elle avait une présence scénique incroyable, une belle voix. C'était quelqu'un de très fragile, en fait, à la fois forte et fragile. Je me souviens qu'un soir où elle avait perdu quelqu'un de très très proche dans la journée, le jour des mêmes, elle a chanté le soir. C'est difficile de parler de Jeanne parce que ça a été une relation affective forte. Elle demandait, elle était très en demande, très généreuse. Et c'est compliqué j'ai toujours trouvé difficile de mélanger de façon trop intense l'affectif et le professionnel. Je suis très admiratif des couples qui jouent ensemble. Ça me paraît pas évident. Enfin, on peut être tenté de règlement de compte à l'intérieur. Là, je parle pas de couple avec Jeanne, mais enfin, on avait vraiment une relation affective forte et peut-être ça ne rendait pas les choses faciles pour la collaboration musicale. Je sais pas, je manque un peu de recul.
Musique, les grands entretiens de Christian Vivaldi.
Quand on parle de répertoire, vous avez jamais eu d'ostracisme, c'est vrai, jouez tout, mais vous avez eu un goût aussi assez prononcé pour les littératures rares. Vous aimez ça, peut-être on pourrait dire, je sais pas, les coulisses du répertoire.
Ah oui, tout à fait, j'ai adoré chercher des choses, notamment dans le répertoire à quatre mains d'ailleurs, mais pas seulement, en fait, des œuvres qui méritent d'être découvertes. Et dans les festivals où j'allais régulièrement, j'avais souvent l'occasion de le faire, hein. Jouer le quintet de Reynaldo Hahn ou le quatuor de Taneyev, ce sont les choses qu'on connaît pas, et souvent ça vaut la peine. Enfin, oui, j'ai toujours adoré ça. Mais...
Et vous y arrivez comment ? Par la lecture de livres, par des enregistrements ou d'autres artistes qui vous... Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fouillait dans des bibliothèques ?
Oui, tout à fait. En effet, je découvre dans les livres que tel compositeur a écrit ça. Je me dis, tiens, qu'est-ce que ça peut être ? J'avais pas mal de bouquins adéquats. Je me souviens de séances, notamment avec Noël, de déchiffrage à la Bibliothèque nationale. Je ne sais pas si ça existe encore. Il y avait des studios au premier étage avec des piano droit dans chaque studio, on pouvait là, alors on prenait des partitions, on allait regarder pour des disques par exemple. Oui, j'ai toujours adoré fouiller comme ça dans les... Oui, bien sûr.
Et alors votre rapport à l'enregistrement, parce qu'on a parlé beaucoup du concert, et puis il y a une autre partie de la vie du musicien qui est d'enregistrer. Quel est votre rapport au disque où vous avez eu beaucoup de prix, Grand Prix d'Académie Charles Cros, Diapason d'Or, etc. Le disque, ce qu'on laisse, c'est quoi ? La photo d'un instant, l'accomplissement, ou bien une étape ? Comment vous le voyez ?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que je crois que je ne suis pas le seul dans la vie professionnelle. On réécoute jamais ces disques. Hein. On écoute le pré-montage, le montage, et puis après, on les oublie. Hein. C'est une forme de track différent. Mais on sait qu'on peut refaire une prise, qu'on peut recommencer. C'est difficile, je crois, d'être aussi spontané peut-être qu'en concert. Enfin, bon, il y a les aléas aussi, quel que soit le soin que prennent les organisateurs pour choisir un lieu adéquat. Peut arriver que le chauffage se mette à faire du bruit. À l'église du Liban, ce sont les pigeons qui sont coincés là-haut dans la lucarne. Dans telle église, on entend quand même une voiture à un moment. Enfin bon, bref. Tout ça, ça participe aussi du. Mais le fait de pouvoir refaire quand même, on sait qu'on fait des montages et que c'est assez rassurant, tout de même, à condition d'avoir une bonne oreille vraiment fiable. Dans la cabine d'enregistrement, quelqu'un en qui on a confiance, qui sait que, qui va entendre vraiment ce qu'il faut et savoir ce qu'on peut garder, ce qu'on ne peut pas garder. Et ça, ça participe vraiment de ce type de travail, oui.
Vous
Mais par
avez
exemple, je parlais du théâtre de la ville récemment, je trouve très dommage qu'il n'y ait pas eu à l'époque où on faisait 5 jours de suite le même programme, et ils avaient de très grands artistes, hein, tout le monde, passer au théâtre de la ville, je trouve navrant qu'on n'ait pas eu l'idée d'installer des micros 5 jours de suite en faisant les montages. On aurait eu des disques absolument magnifiques. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait.
Et dans cette discographie, il y a aussi des intégrales. L'idée de faire une intégrale, on a parlé de celle de Schubert par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui vous est précieux de plonger à corps perdu dans l'univers d'un compositeur? Est-ce qu'on a le sentiment à ce moment-là d'en avoir encore plus les codes?
Pas forcément, j'ai pas vraiment ressenti ça, mais par exemple, si on devait, il y a eu un moment où. Après pas mal de quelques décennies d'activité, où je me suis dit, voilà, si on m'imposait un seul compositeur en musique de chambre, je crois que je pourrais passer ma vie à jouer Beethoven, les trios, les sonates violon-piano, les sonates violoncelle-piano, et le quintette piano-vivant. C'est une musique, c'est un compositeur qui se renouvelle tellement, mais c'est hallucinant. Je continue à relire des sonates que j'ai jamais jouées en public, il n'y en a pas deux semblables. Des quatuors à cordes que je connais bien, il n'y en a pas deux semblables. En fait, le renouvellement de cette musique, c'est quelque chose d'incroyable. Peu de gens connaissent finalement son opéra Fidelio, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. En plus, humainement, c'est merveilleux. C'est l'opéra le plus féministe qui existe. Non, ça c'est un compositeur vraiment dans les panthéons qui est très haut pour moi, avec Schubert, Monteverdi. D'ailleurs, je suis un peu pervers, c'est-à-dire que quand les gens qui connaissent pas très bien notre profession disent « Mais quel est votre compositeur préféré ?» Ça c'est une des questions un peu bateau, inévitable. Je réponds invariablement Monteverdi,
qui n'a pas
ce qui n'est
écrit pour
pas
le piano.
complètement faux, mais c'est ce qu'on me dit. « Ah mais attendez, il n'a pas écrit pour le piano, ben oui, voilà. »
Et c'est quoi ce que vous aimez tant chez Monteverdi? C'est cette espèce de mélopée qui se déploie, c'est ce théâtre qui entre dans la musique,
La noblesse de la musique et des textes. Les textes sont souvent extraordinaires. Ah oui, ça m'emmène très très loin. J'en écoute pas très souvent, j'en ai beaucoup écouté. Mais c'est vraiment, il y a une noblesse dans cette musique. Alors j'ai un souvenir comme ça, une des premières fois que je suis allé à Venise, j'étais à l'église des Frari. Et il y a des chapelles latérales autour du chœur, et j'entre dans une des chapelles. Elles sont plus ouvertes maintenant, il y a une grille, on peut plus entrer. Mais je regarde cette chapelle, je regarde la vitraille, et puis je baisse les yeux, je m'aperçois que j'étais en train de marcher sur la tombe de Monteverdi. Ça m'a fait un effet incroyable.
Et les opéras tout autant que la musique sacrée.
Oui, bien sûr. Ah oui, le couronnement de Poppée, L'Orfeo, c'était un des tout premiers opéras, oui.
Christian Ivaldi, j'ai lu que vous disiez oui, mon ami Pentier, lui, il est croyant, moi je suis complètement athée, bon, on s'entend bien, on se complète. En même temps, je suis.
Ah bah, je
ici,
respecte les croyants.
Et,
oui.
et je vois un Christ,
oui,
je
oui.
vois.
Vous avez raison, il y a beaucoup de. Ben, j'ai partagé la vie de quelqu'un dans les années 70 qui avait un don pour découvrir des objets. Et voilà, ça explique que la plupart, c'est pas moi qui les ai acquis.
C'est vrai. Et donc
mais je suis farouchement athée, oui, ça c'est vrai, je vais pas le cacher. Queno, dont nous parlions récemment, effectivement, je l'ai découvert avant de travailler avec lui, je l'ai découvert dans les enregistrements de Corbeau, notamment des Vêpes de la Vierge. Et Hugues, qui était un personnage très intelligent et un vrai artiste, m'avait un peu déçu parce qu'il était très dans les anecdotes et je n'arrivais pas à cerner le personnage qu'il était. Enfin, il se protégeait, je pense, un peu. Et...
Oui, mais à l'écouter, on comprenait des choses.
Oh, oui, oui, oui. Oui, mais c'était une époque où je pensais un peu sottement qu'un artiste exceptionnel devait être un personnage rare dans la vie. Par exemple, j'avais ce choc de Kathleen Ferrier, très jeune, exceptionnelle. On m'avait prêté en anglais les lettres qu'elle écrivait à sa sœur pendant ses tournées, et c'était d'un prosaïsme absolument incroyable. Elle parlait très peu des endroits où elle était, des gens qu'elle fréquentait. Elle disait, voilà, on a très bien dîné hier chez les Intel, et John Newark, qui était son pianiste, est adorable, il me porte mes valises. Enfin, c'était des réflexions, j'étais horriblement déçu. Je pensais que quelqu'un qui me bouleversait comme Catherine Ferrier devait être quelqu'un qui avait des choses passionnantes à dire. C'était pas le cas, en fait.
South o'er the bonny blue sea, blow the wind southerly, 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 blow bonny breeze, my lover to me. They told me last night there were ships in the offing, and I hurried down to the deep rolling sea. But my eye could not see it, wherever might be it, the bark that is bearing my lover to me.
La chanson « Blow the Wind Southerly » par Kathleen Ferrier pour clore ce quatrième épisode des Grands Entretiens avec Christian Ivaldi. Réalisation Olivier Guérin, prise de son Arthur Gerbeau, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Suite et fin de ce portrait, demain à la même heure, podcast et réécoute sur francemusique.fr.
Blow, bonny breeze, and bring him to me. Is it not sweet to hear the breeze singing as lightly it comes o'er the deep rolling sea? But sweeter and dearer by far when bringing the bark of my true love in safety to me.
À réécouter sur francemusique.fr.